Libre Radio, ici point de calcul, mais des mots qui comptent. www.libradio.org.
Et alors ça nous donne la transition toute faite, hein. Perséphone et Déméter. Une expo, on l'a dit, par Martine Rancarani et Ariane Argyris, donc mère et fille. On l'a dit, les dates, ça court du 8 juin au 3 juillet à la Galerie Mora-Mora, qui se situe au 6 rue Louis de Montfalcon à Genève. L'entrée est libre. Effectivement, on a donné les horaires et ce qu'on peut ajouter, c'est le site internet de l'Espace Galerie, www.espacemoramora.ch, et le numéro de téléphone pour que des personnes qui souhaiteraient venir en dehors des horaires prévus puissent le faire. Eh bien, le numéro est le suivant, 076-382-15-31. Alors, Perséphone et Déméter, c'est une allégorie, un mythe de l'Antiquité. Pourquoi ce choix-là? Alors, tu nous as déjà ébauché la réponse, hein. Pour toi, c'est évidemment un retour aux origines. En tout cas, voilà, une manière de célébrer ou de te plonger dans des souvenirs. Y a-t-il d'autres raisons qui ont fait que tu avais en particulier envie de revisiter ce mythe?
Oui. Cette expo, pour commencer, j'étais censée la faire toute seule. Et puis en fait, par un heureux hasard, on s'est rendu compte qu'en fait, ce serait chouette de la faire à deux avec ma mère. Et j'étais à la fois très très exaltée à l'idée de travailler encore une fois avec ma mère. Et en même temps, je me suis dit que faire cette exposition sans parler du fait qu'on était mère et fille, ce serait un peu, j'allais dire hypocrite, c'est un mot un peu fort, mais j'avais vraiment besoin d'en parler parce que à la fois, c'est une grande joie de pouvoir travailler à ses côtés. Et c'est aussi source de plein d'émotions pour moi en tant que sa fille. Et du coup, j'ai eu envie qu'on trouve un thème à deux qui permettait de parler de ça. Et comme j'ai un grand lien, ma mère n'est pas d'origine grecque, mais comme moi j'ai un grand lien avec mes origines grecques, j'ai eu envie de passer par ce mythe afin qu'on puisse toutes les deux le réinterpréter et du coup parler de notre lien l'une à l'autre, et puis elle avec sa mère aussi. Et que ce soit sur la table, quoi, que ce soit d'emblée, que les gens se disent pas, enfin que les gens comprennent notre lien aussi et que mm-hmm. et que ça puisse être sorti, quoi.
Oui. Est-ce que tu aurais envie de nous faire un petit résumé, comme tu le fais si bien, de ce mythe?
Avec plaisir. Alors, du coup, Déméter est la mère de Perséphone. Déméter, c'est la déesse de la fertilité des terres. Et donc Perséphone l'est au même titre comme sa mère, donc elles sont un peu comme une double déesse en fait. Et le papa de Perséphone, c'est Zeus, qui est le frère d'Hadès, Hadès qui règne sur les enfers. Et en fait, bon voilà, Perséphone et Déméter, elles sont sur la terre, elles s'occupent de leurs semences, elles les font grandir. Et puis Hadès les observe un peu de loin, comme il a le droit de faire, il sort des enfers. Il observe un petit peu ce qui se passe sur la terre et puis un jour il tombe en amour sur sa nièce en fait. Il trouve qu'elle a des très belles chevilles et du coup il se dit « Ouh là là, j'aimerais bien l'épouser celle-ci, elle est bien mignonne ». Et du coup il passe par le biais de Zeus, son frère, pour lui demander s'il peut l'épouser. Et Zeus lui dit « Ben oui, oui, vas-y, mais fais-le en secret parce que Déméter, elle est très proche de sa fille et elle va t'en vouloir si elle apprend que tu veux l'épouser ». Donc du coup, Hadès attend que Déméter parte un petit peu en voyage et il fait pousser des narcisses dans un champ pour attirer l'attention de Perséphone. Et quand elle est en train de cueillir son narcisse, il débarque avec son char et il l'enlève. À ce moment-là, Perséphone pousse un énorme cri et elle pousse un cri pendant très longtemps parce que du coup, elle est traînée au travers les champs, les océans et puis ensuite tous les fleuves, les cinq fleuves avant d'arriver aux enfers. Et du coup, Déméter entend son cri au loin. Mais quand elle débarque, Perséphone a déjà disparu. Donc du coup, Déméter, elle fait le tour de la Terre en demandant à tout le monde, tous les dieux qu'elle croise, s'ils ont trouvé sa fille, où elle est, pourquoi elle criait. Personne ne veut lui répondre parce qu'ils ont tous très très peur d'elle. Et du coup, Déméter, elle part dans un long voyage durant lequel elle coupe à la Terre toutes ses semences. Enfin, elle empêche toutes les semences de fleurir et de porter leurs fruits. Donc du coup, c'est une grande, grande crise dans l'histoire de l'humanité parce que les humains commencent à mourir de faim. Comme ils meurent de faim, bah, ils commencent aussi à arrêter de donner des offrandes aux dieux parce qu'ils en ont déjà plus pour se nourrir. Alors, et c'est à ce moment-là que les dieux, ils se disent « Bon, bah, peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on fasse quelque chose parce que si on n'a plus d'offrandes, bah, nous aussi, on va mourir. » Du coup, Hermès est envoyé aux enfers pour demander à Hadès qu'il rende à Perséphone sa liberté. Et Hadès, il est un peu déçu. Donc il dit oui. Sauf que pour le chemin du retour, il lui donne à manger une grenade pour si jamais elle a un petit creux. Et en fait, la grenade, dans la mythologie grecque, c'est le fruit des morts. Donc c'est un fruit qui ne peut être consommé que par les morts. Et si on le consomme, ça veut dire qu'on est mort. Et du coup, Perséphone, elle en mange un bout. Et quand elle revient sur Terre, elle apprend que parce qu'elle a mangé la grenade, elle est liée au royaume des morts et qu'elle peut passer que 2/3 de son temps sur la terre ferme et que pendant 1/3 de l'année, il faut qu'elle retourne au royaume des morts pour tenir compagnie à son mari. Et accessoirement, elle a un enfant avec lui aussi. C'est pas le cas dans toutes les histoires, mais voilà. Et du coup, c'est ce mythe-là qui a aussi créé l'idée du mythe des saisons dans la Grèce antique, parce que quand Perséphone redescend dans les enfers tous les ans, Déméter est triste, et du coup, c'est l'hiver sur la Terre, et quand Perséphone revient, c'est le printemps qui renaît sur Terre. Il y a aussi toute une histoire avec Déméter et son parcours sur la Terre pendant l'absence de Perséphone, où elle a vécu en fait chez des humains, dans la ville d'Éleusis, et du coup, ça a aussi créé toute une religion spécifique propre à Déméter, qui a enseigné ses savoirs ancestraux sur les graines à Éleusis, et du coup, cette religion un peu secrète qui s'appelle... c'est la religion éleusienne, quoi. Donc voilà, il y a aussi toute cette histoire-là, mais dont je parle moi pas trop. Voilà, c'est un peu ça le mythe de Perséphone.
Par rapport à ce mythe, pour disons créer les œuvres que t'as créées, ça a été quoi ton parcours de réflexion pour te dire ok, à partir de ce mythe-là, je crée telle œuvre?
J'avais envie de me placer du point de vue de Perséphone, parce que je suis moi-même une fille et pas du tout encore une mère, et je sais pas si je le serai un jour. Et j'ai observé ce qui avait déjà été fait, ce qui avait déjà été écrit, et je me suis rendu compte que l'histoire, moi je la raconte beaucoup du point de vue de Perséphone, mais l'histoire, quand elle est racontée, elle est très souvent racontée du point de vue de Déméter. Et en fait, c'est un peu ce laps de temps, ce flash forward où on n'entend pas du tout parler de ce qui s'est passé pour Perséphone en enfer, ou très très vaguement, et le seul moment où c'est centré sur Perséphone, c'est le moment de l'enlèvement en fait, comme si c'était cette scène hyper dramatique où bim, elle s'est fait enlever, voilà, donc la victime personnifiée un petit peu, mais on n'entend pas du tout parler de son moment dans les enfers, et je me suis dit, mais moi j'ai envie de parler de l'histoire de Perséphone en fait, de parler de ce que c'est que de redescendre dans les profondeurs de l'enfer, de manière un peu métaphorique, d'aller faire face un peu à ses démons, et puis d'en ressortir au final en étant la reine, quoi. Donc j'avais envie de parler de cet aspect-là du mythe, et puis aussi du coup de l'associer à des moments de ma vie qui peuvent être métaphoriquement associés à cette histoire.
Tu as utilisé pas mal de... Bon, moi je suis allée voir l'expo, j'ai un peu triché, hein. Tu as utilisé pas mal de d'œuvres qui existaient déjà. En fait, tu t'es inspirée d'œuvres qui existaient déjà.
Alors ça, c'est ce que j'ai fait à la fin, ouais, parce que ouais, c'est un peu une question qu'avait posée Will tout à l'heure, mais pas entièrement, je me rappelle plus. J'ai fait d'abord tout ce qui me passait par la tête, et puis à la fin, je me suis dit, ah, il y aura peut-être pas assez pour remplir la galerie, et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et du coup, j'ai observé, oui, toutes les œuvres plastiques, enfin dans les peintures et dans les sculptures et les gravures qui avaient été faites, qui représentaient Perséphone, et je leur ai mis un peu mon twist. J'ai repris juste les formes physiques. Et en fait, comme il y a cet aspect dans la peinture, enfin, je peux pas mettre une seule époque parce qu'il y a eu plein. Il y en a qui datent du 16e, d'autres qui datent du 18e, d'autres du 19e. Mais souvent dans la peinture, on la voit en train de souffrir, en train de crier. Enfin, voilà, dans ce moment de grande souffrance. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce serait si on le rendait un peu plus joyeux? Et du coup, j'ai voulu essayer de prendre leur forme et avec juste la couleur et la manière dont je les mettais en couleur et en scène, de donner l'impression qu'elles étaient en pleine extase, en fait.
Et alors, ce travail à quatre mains, donc avec ta maman, et effectivement, on a bien compris que tu questionnais ce rapport à ta maman, et ton, ouais, et ton rapport toi-même au fait d'être, d'être ou pas une mère. Comment est-ce que les décisions ont été prises? Est-ce que vous vous êtes nourris l'une l'autre? Est-ce qu'il y a des conseils qui ont fusé? Est-ce qu'au contraire, vous vous isolez pour ne pas, d'une certaine manière, parasiter entre guillemets l'inspiration l'une de l'autre? Donc ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet, c'est justement, mais tu y as déjà répondu, c'est à un moment donné, est-ce qu'il faut trancher, filtrer, puis dire ça ce sera ok, puis ça non, cette piste là on va pas l'entreprendre?
La première partie de la question, je pense que ça aurait peut-être été différent s'il n'y avait pas eu cette pandémie cette année, mais du coup il est vrai qu'on a vraiment travaillé à distance l'une de l'autre. À chaque fois qu'on faisait quelque chose, on se l'envoyait en photo. Moi, j'ai revu ma mère pour la première fois la semaine dernière depuis 6 mois, en fait. On ne s'était pas vu depuis 6 mois à cause du Covid. Et du coup, on s'envoyait des photos de ce qu'on faisait, mais on a vraiment travaillé chacune de notre côté. L'objectif, c'était vraiment d'avoir chacune notre interprétation et de voir ensuite, une fois qu'on les met ensemble, qu'est-ce que ça donne de les voir ensemble. Moi, je suis quelqu'un qui travaille en étant beaucoup, beaucoup dans ma tête. J'absorbe beaucoup de choses. Et puis, une fois que je me mets au travail, en général, ce que je sors, ça m'aura pris longtemps à mâcher en réflexion. Mais une fois que ça sort, en général, ça ressemble à ce que je voudrais. Donc, la sélection, c'est pas trop une question qui se pose pour moi parce que, ouais, en général, je suis satisfaite de ce que j'ai fait une fois que je le pose sur le papier. Par contre, pour ma mère qui, elle, a fait des dizaines et des dizaines de choses, elle est beaucoup, beaucoup plus prolifique que moi et elle réfléchit en faisant. Elle a mis du temps et il a fallu qu'elle voie ce que j'avais fait moi pour sélectionner ce qu'elle allait poser sur les murs de la salle.
Donc, il y a quand même eu un va-et-vient, effectivement, d'informations.
J'aimerais juste, en quelques mots, parce que Martine n'est pas là pour nous parler de son œuvre.
Ah, elle vient de partir.
Donc toi, tu nous as expliqué que tu t'étais concentrée plutôt sur la peinture pour cette expo-là. Tu arrives à nous résumer quelles œuvres elle a produites pour cette expo, sur quel support, etc.
Alors, elle avait fait plein de choses différentes et au final, elle a eu envie d'une cohérence visuelle dans tout ce qu'elle avait fait. Donc, elle a utilisé majoritairement sur les murs une série qu'elle a faite qui est plusieurs impressions. Alors, il y a plusieurs types d'impressions dans sa technique. Il y a de la linogravure. Et il y a aussi des impressions qu'elle fait de tissus imbibés de restes de peinture. Elle imbibe des tissus dans de la peinture et elle les pose sur le papier. Du coup, c'est un peu une double impression. Donc, il y a beaucoup de ça. Je les regarde là en même temps que je vous parle. Je pense que l'idée d'utiliser de la linogravure, c'était pour qu'il y ait une continuité dans les traits, parce que du coup, c'est comme des tampons qui sont reproduits en plusieurs fois. Et après, il y a aussi quelques travaux qui sont à l'encre, à l'acrylique, au stylo, au dessin. Il y a beaucoup de choses différentes, mais tout n'est pas sur les murs.
Alors, il est temps que tu nous fasses visiter cette expo à distance également, sans que l'on les voit. Voudrais-tu nous proposer 3 œuvres que tu... parmi celles que tu penses qu'elles sont des œuvres clés de l'expo, que tu nous décrirais.
Bon, mais la première, je vais parler d'une de moi parce que c'est celle que je suis plus capable de décrire et c'est une que j'ai sous les yeux là maintenant et elle est en format 24 par 32 sur du papier cartonné et c'est des techniques mixtes, donc il y a de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'encre de Chine et des crayons de couleur aussi. Et c'est un travail qui décrit, on dirait, un espèce d'énorme chat, dragon, chien qui est penché en avant avec l'œil jaune et bleu et ses grands crocs jaunes qui sont à hauteur du niveau de la tête d'une personne allongée. Cette personne, on voit qu'elle est un peu en train de trembler, elle a une couronne sur la tête. Et sur le dos de cette bête, il y a une deuxième personne qui a le ventre tout rond et qui met les bras en avant comme pour s'y accrocher et qui grimpe. Et sur le dos de cette bestiole, il y a des arbres qui poussent.
C'est sur son ventre.
Et sous son ventre, il y a des feuilles qui tombent comme un espèce d'hiver qui se passe sous son ventre. Et puis les deux petits personnages, donc celui qui est sur le dos de la bête et celui qui est sous ses pattes, ils sont liés par leur nombril avec un petit fil doré. Voilà, donc ça, c'est un travail que j'ai fait moi.
Ouais. Juste, est-ce que tu donnes des noms à tes toiles? Et puis, si tu voulais, justement, quand tu nous les décris comme ça, nous dire aussi, c'était quoi l'état d'esprit au moment où tu les peins?
Alors, cette peinture-là, elle doit avoir un nom. Je leur donne des noms, mais c'est un peu plus par nécessité que par inspiration. Et je vais te retrouver son nom. Pour l'état d'esprit... C'est la première peinture, en fait. J'ai voulu décrire celle-là, puis c'est la première peinture que j'ai faite quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire pour cette expo. Et elle est à la fois, pour moi, représentative du mythe, mais c'est clairement imbibé de mon histoire personnelle, puisque ça parlait de séparation, en fait. La bête, c'est celle qui vient... cherche le nom, je sais pas. C'est celle qui vient chercher... Ah oui, elle s'appelle le rapt de Perséphone, en fait. Mm-hmm. Ça parle de l'enlèvement, et puis ça parle aussi, pour moi, de détachement avec sa mère, d'éloignement, ça parle un peu d'adolescence en fait.
On passe à une deuxième ?
À une deuxième. Alors on va prendre une de ma maman du coup. J'en ai une sous les yeux qui est sur fond c'est des nuances de doré, mais avec un espèce de fond de vert aussi. Et ça ressemble comme un espèce de, d'océan de milliers de petites vaguelettes. Donc ça, c'est fait avec du tissu imbibé de peinture et qui est posé sur la feuille. Et sur ce fond plein de vaguelettes, il y a un personnage à gauche qui est debout et qui passe les doigts dans ses cheveux, et ses cheveux, ils sont bruns et recouvrent tout son visage. Et de l'autre côté de la feuille, qui lui tourne un peu le dos, il y a un autre personnage, mais qui est, elle, roulée en boule et qui pleure, enfin, qui a l'air de pleurer, mais on voit pas vraiment, et qui a pareil les cheveux qui la recouvrent. Et ces deux personnages, ils se tournent le dos et ils ont l'air, même s'ils sont à côté, de pas vraiment être sur le même plan, parce que les impressions sont pas avec la même force d'encre. Donc voilà. Et ça, pour le coup, c'était, l'interprétation de ma mère. Et pour elle, ouais, ça parle vraiment pareil. C'est celle aussi qui parle de séparation, en fait. Mm-hmm. Ouais, elle s'appelle Déméter et Perséphone.
Ah bah voilà.
Voilà. Comme ça.
Mais c'est marrant parce qu'il y a une notion de gémellité entre Déméter, en tout cas d'égalitaire, d'égalité,
ouais.
D'égal. Mm-hmm. Puis en même temps, là, quand on t'entend, il y a quand même la séparation qui vient. Cette notion-là qui affleure, non?
Bah en fait, c'est le moment de l'histoire qui est le plus connu, le moment où elles sont séparées. Mais pour moi, c'est intéressant parce que c'est... Bon, après, je vais parler à titre personnel, mais je pense que c'est aussi un peu une des métaphores de l'histoire, que c'est seulement à partir du moment où elles ont été séparées et réunies qu'elles sont vraiment égales aussi, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à l'adolescence où c'était... Où t'as une mère avec laquelle t'es super fusionnelle. Enfin, moi, j'étais super fusionnelle avec ma mère jusqu'à l'adolescence. Et là, il y a eu... une grosse séparation, un moment où on se comprenait plus du tout et il a fallu que je parte de la maison et que je fasse mes propres expériences pour pouvoir retrouver un dialogue avec ma mère et une sensation de me sentir égale à elle et d'arrêter de me comparer à elle et de juste être une adulte face à une autre adulte qui certes est ma mère et que j'aime pour ça, mais aussi avec qui on peut avoir un dialogue sain et posé et d'égal à égal.
Et c'est-à-dire qu'on accède à cette forme d'égalité, en tout cas de rapport horizontal, que dès lors qu'on est parti, qu'on est parti en quête de quelque chose, et de retour, eh bien, voilà, on a grandi, et puis ce retour permet de se re-rencontrer, mais sur des bases différentes.
C'est ça. Okay. C'est vraiment mon interprétation, en tout cas, de ça. www.libradio.org